Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose un passage, une lecture. Bon, je pense que c'est un épisode de la vie de Jésus qui est des plus connus, mais c'est bien de pouvoir dire quelques mots sur le sujet. Donc, dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 2, et nous allons donc lire ce passage. Alors, je rappelle, évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira, or ». Il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà pour la situation de notre méditation, de notre réflexion ce soir. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est dit donc dans cette dernière phrase que c'était le premier miracle que Jésus a fait et il a manifesté sa gloire. C'était le premier d'une longue liste de miracles de toutes sortes, divers, à travers des guérisons, à travers des prodiges, et tout cela pour donner la confirmation ou authentifier, eh bien, sa mission divine. Et nous allons justement, à travers cette réflexion ce soir, mettre en présence quelques personnages. D'abord Marie, la mère de Jésus, et puis Jésus naturellement. Et nous parlerons également de ce que peut signifier un tel miracle dans une circonstance tout à fait particulière parce qu'il s'agit d'une noce et de pouvoir en retirer finalement et souligner, puisque nous avons commencé par là, tel fut à Cana le premier miracle, la divinité de Jésus. C'est important hein, que nous puissions être fondés de ce que Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas seulement un envoyé de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Alors c'est sur ce thème-là que nous allons développer notre réflexion, et vous avez remarqué avec moi, dans le premier verset, il nous est dit qu'il y eut des noces à Cana, en Galilée. C'est certainement un événement des plus fréquents dans la société des hommes, dans les événements de la vie, que ce soit les naissances, que ce soit les mariages et puis naturellement la fin de vie, de rassembler autour de soi des amis, des parents, etc. Mais il nous est donné cette phrase, il nous est dit que la mère de Jésus était là. Et c'est intéressant parce que nous allons voir que finalement l'occasion du miracle est venue par la présence ou plutôt par la présence, mais aussi une question de Marie, et essayer de faire un petit peu le tri dans la position des uns et des autres, parce que Marie se trouvait là, invitée aux noces. Probablement, la mère de Jésus se trouvait là parce que c'était une famille amie, ou peut-être une parenté, ce qui est plus proche naturellement. Et nous remarquons que Jésus, par le fait même qu'elle ait parlé, qu'elle se soit adressée à son fils, cela laisse supposer qu'elle devait être quand même une intime, parce qu'elle prenait une part active dans les arrangements de la fête. Si vous êtes un ami de la famille et que vous allez dans un mariage, vous allez attendre qu'on vous serve. Et vous n'allez pas donner des ordres au nom de tout le monde pour être servi. Quelles que soient les circonstances, et s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose qui fait défaut, eh bien, vous allez attendre que réparation soit faite ou que l'on vienne vous dire telle ou telle chose pour peut-être pallier à la difficulté qui surgit. Mais elle commande. Elle va commander, donc, ce qui nous donne une petite idée de, certainement, de son implication, et elle va commander aux serviteurs. Comme si elle était la maîtresse de maison, comme si elle était peut-être la mère d'un des mariés, ce qui peut être fait dans ce cas de figure. Et puis, à la suite, il nous est dit, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Imaginez-vous une invitation qui s'adresse à une personne et vous venez à 13. Ça change un peu les donnes. Mais oui, c'est comme ça que... Mais il faut bien se rendre compte que les noces, probablement dans l'Antiquité à l'Oriental, n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons, en effet, de nos jours. Par contre, la présence de Jésus souligne une chose bien particulière. Et ça, c'est important de le dire parce que il y a, je l'ai souligné tout à l'heure, la marque de la divinité de Christ étant fils de Dieu et Dieu lui-même à travers le miracle. Nicodème le dira. Nul ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est avec lui. Or, là, nous voyons que c'est encore plus que Nicodème, eh bien, affirme, c'est que, eh bien, en Christ, il y a Dieu. Donc, l'auteur de ce miracle. Et cette présence a ce mérite de souligner une chose importante, c'est que Jésus consent à prendre part à une fête de famille. Jésus n'est pas, passez-moi l'expression, mais un ennemi de la réjouissance, des circonstances qui rassemblent les hommes, parce qu'il y a quelque chose, un fait de la vie qui est à marquer. Et on peut dire que par le fait de sa présence, Jésus va honorer ainsi le mariage, et je voudrais quand même le préciser au passage, le mariage est une institution divine. C'est une institution de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, il prendra une femme, ils deviendront une seule chair. Alors après, toutes les modalités sociales qui sont survenues, mais nous voyons que Jésus va marquer, et c'est un fait dans l'Évangile, pour nous situer dans la place que Jésus accordait, finalement, à ces réjouissances humaines, à ces réjouissances que les hommes, eh bien, pouvaient organiser. Sa présence sanctifie aussi les relations, les sentiments humains et également toutes les joies. Jésus aurait pu dire, moi, ma tâche est tellement immense. Et puis moi, en tant que fils de Dieu, je ne peux pas me mêler à ces choses. Non, Jésus va participer à cela. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui ajoutera cette notion que l'Évangile s'inscrit dans tous les événements de la vie. Les événements heureux comme les événements malheureux. Et Paul dira cette parole, il dira cette chose, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et je pense que quand on est chrétien, prétendument avoir notre foi en Dieu, eh bien, nous participons à toutes ces choses, dans un sens comme dans un autre. Et nous voyons que c'est Jésus qui sanctifie les relations. C'est important parce qu'il y a une bénédiction particulière sur la famille. Alors la famille, elle est malmenée, vous le savez. Mais une chose, ça ne change rien. Aux yeux de Dieu, Dieu bénit finalement ce qu'il a créé et ce qu'il a institué. Et nous voyons que c'est bien précisément dans le sanctuaire de la famille humaine qu'il va faire son premier miracle. Il aurait pu peut-être réserver la primeur de l'extraordinaire et des dons de Dieu dans d'autres circonstances. Pourquoi pas une résurrection des morts? Mettre en premier l'histoire de Lazare ou la multiplication des pains? Parce que c'était un grand repas, là aussi. Ou encore, je ne sais quel autre événement, pour montrer, eh bien, avec maestria, eh bien, toute sa puissance. Non. C'est dans la famille que les choses vont, eh bien, être rendues publiques, connues du monde. Et puis voilà qu'il y a un fait qui apparaît dans notre lecture. Il nous est dit que, probablement au moment où la fête battait son plein, il y a un événement, on pourrait dire un incident qui va surgir. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus de lui répondre aussitôt « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Voilà. En principe, quand on prépare un événement comme ça, on fait attention à ce qu'il y ait suffisamment, quitte à avoir du surplus. Hein. Mais, excusez-moi, mais ça fait quand même mauvais genre. Hein. Quand vous invitez sans une centaine d'invités, que vous n'avez pour que 50. Alors, on peut toujours dire qu'il y aura un second service. Mais, ce ne sera pas le jour même. Alors, c'est vrai que ce sont des circonstances inattendues, cela. Le vin ayant manqué. Surtout quand on place le contexte du mariage dans la joie, hein, et peut-être quelquefois une joie qui déborde au-delà de toute limite, puisqu'il nous est dit que Jésus le dira, mais on garde le meilleur vin une fois que tout le monde se soit enivré. Alors imaginez-vous, hein. C'est triste d'ailleurs qu'un mariage finisse dans ces conditions. Et malheureusement, ça existe. Mais toujours est-il que, est-ce qu'il y avait une consommation excessive? Je ne sais pas, mais peut-être un mauvais calcul. Alors, la question que nous pouvons nous poser lorsque nous considérons ce passage, ce texte qui est unique finalement dans les évangiles, hein, l'histoire de Cana, c'est unique. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi ce manque? On pourrait toujours alléguer qu'il y avait de nombreux invités, les gens étaient venus par sympathie et puis pour se réjouir, ce qui pouvait être un fait. Et puis une noce, ça durait plusieurs jours. Quand on sait que chez nous, ça dure une journée et ça coûte très cher. Là-bas, ça devait être beaucoup plus simple, mais probablement, successivement, les plus éloignés venaient les premiers jours. Et puis en plus, l'intimité se faisait avec les plus proches, les plus intimes, le dernier jour, le grand jour de la noce, en quelque sorte. Alors peut-être que là aussi, eh bien, les prévisions avaient été insuffisantes. Ça peut être une explication. Mais une autre question qui arrive maintenant, c'est le pourquoi de l'intervention de Marie vers son fils, qui va finalement eh bien, s'adresser et qui va mandater, qui va commander au serviteur. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi Marie dans cette situation? On l'a dit peut-être par sa relation d'intimité avec la famille du marié ou de la mariée, je ne sais pas. Parce que Marie demandait un miracle, ni plus ni moins à Jésus, dans la pensée qu'il viendrait au secours de ses amis dans l'embarras. Mais qu'est-ce qui lui pouvait lui faire penser à cela, puisque Jésus n'avait jamais fait de miracle, jusqu'à présent? Qu'est-ce que Marie, mère de Jésus, pouvait avoir en tête pour manifester cette audace et oser, finalement, eh bien, faire une telle chose dans de pareilles circonstances? Pourquoi s'adresse-t-elle à Jésus, l'invitant à se révéler? Alors là, on va un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y avait au fond de son cœur quelque chose, une révélation qui faisait que elle pensait que c'était le moment, l'opportunité pour que son fils, eh bien, se révèle comme elle le pensait dans son cœur? Parce qu'elle portait, elle était porteuse d'une certaine conception. C'est elle qui l'avait mis au monde. Et pendant 30 et quelques années, il ne s'était rien passé dans la vie de Jésus. Il ne s'était rien passé à Nazareth. Alors pourquoi à ce moment-là? Encore une autre question. Que savait-elle, que savait Marie au juste sur le compte de son fils? Alors, on peut toujours se hasarder à avancer un petit peu la question et apporter une réponse. L'explication pourrait être tout simplement celle-ci. Marie avait reçu des révélations du ciel, des révélations divines, lors de la naissance de Jésus. Je vous rappelle simplement pour mémoire d'abord les déclarations de l'ange Gabriel avant la naissance de Christ, où il était dit des choses merveilleuses. des choses finalement qui ne pouvaient venir que d'en haut. Il y avait aussi ces propos d'Élisabeth, la cousine de Marie, qui va déclarer elle-même enceinte, eh bien que l'enfant qui naîtrait, autant son fils que Jésus, aurait une destinée qui aurait une envergure, eh bien non pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Il y a Zacharie également, qui va prophétiser sur Jésus. Il y a les rois mages, qui vont venir d'un si lointain pays avec, eh bien là, conduits par une étoile, avec des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, avec toute la signification que cela peut avoir, honorant et adorant le roi des rois, parce que c'est cela. Et puis, il y a eu aussi Siméon, qui, dans le temple de Jérusalem, recevra l'enfant Jésus et prononcera des paroles glorieuses, mais des paroles aussi terribles. Et il y a Anne, la prophétesse, cette vieille femme qui se trouvait à ce moment-là. À tel point que, dans l'évangile de Luc, si ma mémoire est fidèle, il nous est dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus, qu'on disait de lui. Et puis un peu plus loin, il nous est dit que sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce que son cœur ne pouvait plus finalement garder cela? Est-ce qu'elle ne pouvait plus garder cela et que, à cette occasion des noces de Cana, elle s'est dit « Aujourd'hui je parle, aujourd'hui je dis !» Parce que elle avait naturellement, eh bien, près de 30 ans, gardé ces choses. Toutefois, Marie n'était-elle pas guidée en demandant un miracle à Jésus pour des mobiles personnels et égoïstes? Ha ! Alors moi, je crois que l'humble Marie de Nazareth, nous avons pu en parler ensemble dans un autre message, mais cette humble jeune fille de Nazareth n'était certainement pas animée d'un esprit égoïste ou par des ambitions personnelles. Je voudrais laisser cela plutôt dans la bouche de tous ceux qui ont voulu faire d'elle ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire ce que les hommes depuis 2000 ans ont enseigné sur Marie et qui n'est ni biblique et encore moins évangélique. Parce que qu'est-ce que les hommes n'ont pas voulu qu'elle devienne? Jusqu'à voiler tout simplement la seigneurie et la divinité de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant parce que pour un lecteur attentif ou scrupuleux de l'évangile du Nouveau Testament, on va s'apercevoir que l'on parle infiniment de Jésus, que l'on parle beaucoup d'hommes, de femmes, d'autres hommes et d'autres femmes, mais qu'on parle très peu de Marie. Ce qui nous fait dire qu'elle a eu une place tout à fait particulière, elle a rempli une mission insigne, quelque chose, eh bien là, qui était le propre, unique de cette femme dans l'histoire de l'humanité, mais rien de plus. Et nous nous apercevons que quel est cet état d'esprit qui a fait et qui a amené les hommes à inventer une histoire qui n'est en rien l'histoire évangélique. Vous remarquerez avec moi, c'est que la réponse de Jésus étonne. Il va lui répondre « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On pourrait être peut-être choqué que Jésus appelle sa mère « femme ». Ce qui est quand même, pour nous, dans notre langage et dans notre manière d'agir vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de ceux qui sont proches, ou peut-être ceux qui sont plus éloignés de nous, un mot quand même assez péremptoire « femme », voire peut-être même teinté de mépris, je ne sais pas. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je voudrais quand même lever peut-être l'ambiguïté parce qu'il n'y a rien dans cette expression de contraire à l'affection. Dans le monde d'alors, un enfant devenu homme, eh bien, pouvait prétendre appeler sa mère femme, parce qu'il était devenu un homme. Or, Jésus, au moment où nous saisissons cette histoire, est un homme. Mais ça va encore beaucoup plus loin que cela. Parce que ce qu'il fait à sa mère, il le refera. Vous vous souvenez qu'au moment de la croix, cette parole pleine de tendresse et d'affection et de souci pour le devenir de Marie. Il s'adressera à Marie, qui est avec l'apôtre Jean au pied de la croix, et lui dira « Femme, voici ton fils » en montrant Jean. Donc c'est la même chose. Il n'y a rien qui soit choquant dans cette expression. Néanmoins, je crois que l'on peut y trouver quand même une tendre répréhension dans les mots qui suivent. Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Parce que Jésus veut expliquer quelque chose. C'est comme si Jésus pressentait que dans les temps qui viendraient, il y aurait quelque chose qui viendrait entacher ou faire de l'ombre, non pas à sa personne, mais à son œuvre, à la pureté de l'Évangile, et ce que deviendrait la foi des croyants dans l'Église, l'Église de Christ, celui dont il est à l'origine. Alors, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Nous pouvons comprendre les choses que Jésus voulait signifier à sa mère, que ses vues, et que plus tard la vue des hommes, la considération ou la conception des hommes, eh bien, serait d'un ordre différent. C'était une autre façon de dire que Marie ne pouvait pas comprendre sa haute mission. Et je pense que là nous en avons les preuves, que Jésus était promu à une dimension tout autre que les hommes de ce moment, à l'époque là où nous sommes au monde des noces de Cana, ils ne pouvaient pas envisager. Jésus tout simplement entrait dans son ministère, ainsi sa soumission envers sa mère ne pouvait s'étendre également à son activité divine ou à son activité de Messie pour les Juifs et de sauveur de l'humanité. Que là, il y avait une part à faire, ce qui était humain restait dans le domaine de l'humanité, et ce qui était divin allait trouver toute sa dimension, et que sa mère ne pouvait pas rentrer, finalement, dans ses considérations. Jésus avait simplement une obéissance envers un être, l'être infini, celui qu'il appellera son Père Céleste. Voilà, là. Il y avait véritablement la marque et Jésus a voulu marquer les choses. Mais ne l'avait-il pas dit lorsqu'il avait 12 ans dans le temple de Jérusalem et qu'il interrogeait ou il était interrogé par les docteurs de la loi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il n'y a pas à confondre les choses d'ordre naturel, les choses d'ordre familial, ou de quelque dimension que ce soit qui appartiennent à notre humanité, avec les choses de l'esprit. Alors, que les hommes n'ont-ils pas inventé au fil des temps pour faire de Marie une médiatrice, une auxiliatrice, si vous me permettez le mot, une intermédiaire, une interprète des plans de Dieu? Alors, je n'exagère pas en disant cela, interprète des plans de Dieu, lorsque nous voyons où maintenant la foi des croyants a été amener où la seule intermédiaire ou la principale intermédiaire c'est Marie au lieu de Jésus, on comprend que les choses ont été dites de cette manière. Alors Jésus va dire non à cette ingérence de la manière dont nous l'avons lu et il marque à sa mère les limites de sa compétence parce que je le rappelle, le rôle de Marie, toute jeune fille et pure, vierge qu'elle était, le rôle de Marie a été uniquement de mettre au monde Jésus, le Sauveur des hommes. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et on peut dire que si les hommes s'en tenaient au récit biblique et évangélique, eh bien, la foi d'aujourd'hui serait certainement pas au point où elle en est. Parce que Jésus nous dit bien, et je le rappelle à dessein, Jésus le démontre dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors que d'invention, que de spéculation, que d'interprétation, de crédulité pour l'erreur et de défiance pour la vérité. Jésus le dira et le proclama quand il priera dans cette prière sacerdotale que l'on trouve aussi dans l'évangile de Jean. Il dira « Mais ta parole, Seigneur, est la vérité. » Comment les hommes en sont-ils arrivés à ce point? Cette crédulité pour l'erreur. Pour poursuivre, on voit ensuite que Marie, avec foi et obéissance, va se soumettre à Jésus. Ce fils désormais va devenir son sauveur et son Seigneur. Ne l'avait-elle pas déjà confessé dans le Magnificat au début de l'évangile de Luc? J'exalte mon sauveur, mon Seigneur. Et là, eh bien, les choses sont faites. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà. Autre traduction que nous pouvons bien peut-être davantage comprendre, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, c'est une injonction de la bouche même de Marie. Ce sont les seules paroles que vous trouverez. Ce sont les seules paroles qu'elle va prononcer, et ces paroles sont pleines de vérité pour engager les hommes à croire et à obéir, à croire en Jésus et à obéir à Jésus. C'est tout. Qu'est-ce que l'on a compliqué, finalement? Et qu'est-ce que l'on a mis en dérive la foi de simples gens qui ne demandaient qu'à croire? Vous savez que c'est très grave, une chose pareille. De faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, ou d'interpréter finalement, eh bien, ce qu'il n'a jamais voulu, là, annoncer aux hommes, ou ce qu'il a annoncé en le déformant. Alors nous voyons que Marie va s'effacer, voire même elle va disparaître de la scène évangélique. Et on la revoit encore une fois dans la foule quand elle vient avec les frères de Jésus devant Jésus pour interpeller Jésus. Elle revient encore une deuxième fois à la croix du calvaire et elle revient une dernière et ultime fois après la résurrection dans la chambre haute en prière avec les disciples. Après le chapitre premier du livre des Actes, il n'est plus question de Marie. Comment peut-on faire une doctrine sur Marie de Nazareth avec si peu d'éléments? Comment? Ce n'est pas possible. Après, il n'y a plus rien sur Marie. Elle disparaît. Il n'y a aucune allusion qui est faite dans les épîtres des apôtres, ni par Pierre, ni par Jean. Parce que Jean l'a pris. Il l'a reçu dans sa maison pour se substituer à Jésus, puisque Jésus est monté au ciel, l'ascension naturellement, il n'y a pas une ligne sur Marie, mère de Jésus. Et qu'est-ce que les hommes, à travers toute l'histoire, et même l'histoire récente, n'ont-ils pas fait, n'ont-ils pas dit, pour la faire apparaître? Les apparitions, ici ou là, ici, par ceci, par cela. Lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit et ce qu'elle n'a jamais fait. Vous savez, la crédibilité de l'Évangile a perdu beaucoup, ou l'Évangile a perdu beaucoup de crédibilité à cause de ce qu'on a bien voulu y mettre dans cet Évangile et rajouter. Et je pense qu'il faut faire attention parce que le livre de l'Apocalypse, d'une manière très solennelle, nous dit tout ce que vous rajouterez ou tout ce que vous retrancherez. Attention, tout ce que vous enlèverez, tout ce que vous retrancherez de ce livre, alors il est question du livre de l'Apocalypse, mais moi, pour moi, c'est tout l'ensemble de la Bible. Et ça, c'est quand même important de le souligner, de le signaler. Et tous ces qualificatifs divins que l'on a donnés à Jésus, que l'on a donnés, pardon, à Marie, excusez-moi, c'est à Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, voilà. Et elle indique à tous la vraie et seule voie, écoutez, V-O-I-X, et la voie à suivre, V-O-I-E, si vous voulez. Jésus, sa parole, son enseignement, et la confirmation de cette parole qui est descendue, de celui qui est invisible, qui était dans le ciel, lorsque Jésus, tout récemment, a été baptisé par Jean-Baptiste, et cette voix qui est descendue du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Dans le livre des Actes des Apôtres, écoutez ce qu'il nous est dit. « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné par les hommes, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ce n'est pas suffisant dans 1 Timothée chapitre 2 et verset 5, c'est l'apôtre Paul, où il nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ âme. Alors, où placer Marie dans toute cette affaire? Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà les dernières paroles qu'elle livre. Et je pense que le lecteur de la Bible, ou celui qui est en recherche de vérité, qui demande à Dieu de l'animer de l'esprit de vérité et de l'amour de la vérité, eh bien ne peut être connaître et respectueux de ce que Dieu a dit. On n'en dira pas davantage. Alors qui doit faire autorité? La parole de Dieu ou celle des hommes? Toute la question, elle est là. Nous allons reprendre le verset 6. Il nous est dit qu'il y avait deux ou trois mesures dans cette maison, dans ces jarres, dans ces amphores. C'est-à-dire, on va faire un petit calcul, une mesure, c'était 39 litres, environ 39 litres. Et il y en avait 6. Imaginez-vous le miracle. Ça faisait en tout 472 litres de vin inattendu. Alors il pouvait manquer, là il y en avait en suffisance, hein, je suppose. Parce que dites-donc, vous allez dans un mariage et que vous vous préparez 400 et 500 litres, oh là là, ça fait beaucoup. Hein. Le verset 7 nous dit que les serviteurs ont reçu l'ordre de remplir les amphores jusqu'au bord, pour nous montrer que le miracle de Dieu, ou les miracles de Dieu, on peut le dire au pluriel, ne sont pas faits avec parcimonie. Quand Dieu fait les choses, il les fait jusqu'au bord. Et Dieu nous parle de plénitude dans cela. Quand il guérit, quand il intervient d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est véritablement la plénitude. Et Jésus va s'adresser donc à ses serviteurs, il va lui dire « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, le maître d'hôtel, si vous aimez mieux. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. C'est simple parce que ça s'explique pas. Ça se constate. Ça se vérifie. C'est ça. L'eau changée en vin. C'est-à-dire l'eau est devenue du vin. C'est l'expression la plus nette du miracle. Il y a un changement de nature. Dans d'autres miracles, ça sera un changement d'état ou un changement de condition. C'est ça, justement. On pourra peut-être pas dire davantage. Parce qu'un fait miraculeux ne s'explique pas. Cette question se résout avec une seule chose que Dieu requiert des hommes. C'est la foi. C'est notre foi. Le déclencheur, nous en avons parlé dernièrement, le déclencheur de la foi qui produit le miracle, eh bien, c'est tout simplement notre foi en Dieu. Et une chose certaine, c'est que les serviteurs, à en juger par ce qu'il nous est dit, qui avaient bien puisé de l'eau, ils avaient bien vu que c'était de l'eau lorsqu'ils les ont mis dans les amphores, savaient que quand ils ont servi l'ordonnateur du repas et ensuite tous les convives, eh bien, ces vases qui étaient remplis d'eau, et quand l'ordonnateur lui a vérifié la chose, il a goûté et il a reconnu du vin. Donc, entre ces deux phases, il s'est bien passé quelque chose que l'on appelle un miracle. C'est comme l'histoire de la multiplication des pains, des poissons et des pains, et dans bien d'autres choses. Mais il nous est bien dit, pour souligner que Dieu ne fait pas les choses à moitié, que tout est fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons lui-même lui demander, c'est que c'était du vin le meilleur qui soit. Et je pense que cela nous est rapporté, non pas comme une légende, non pas comme une simple histoire, mais pour nous montrer que nous pouvons, à l'évidence, vraiment faire confiance à Dieu, et que ce que nous lui demandons, malgré nos limitations de compréhension, malgré tout ce qui peut-être nous renferme dans toutes sortes de choses qui nous limitent, Dieu est capable, et Dieu non seulement est capable, mais veut nous donner toujours au-dessus et au-delà. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Dieu a gardé le meilleur pour la fin, tout simplement. La conclusion serait celle-ci. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but suprême et l'objet de ce miracle, c'était pas de répondre à Marie tout en lui donnant la leçon pour elle et pour nous, à travers les hommes de tous les temps, pour les hommes de tous les temps, et on se demande ce que les hommes dans tous les temps en ont fait, s'ils ont véritablement lu l'Évangile ou pas. Ce n'était pas seulement, mais c'était un bien pour soulager l'embarras peut-être des mariés, mais pour manifester sa gloire. Le premier miracle que Jésus a fait a été pour manifester sa gloire. Dans d'autres cas où Jésus a fait le miracle ou la guérison, c'était par compassion pour répondre à la foi de quelqu'un ou pour garantir d'un danger ou d'un péril. Je pense aux disciples sur la mer où ils étaient prêts à mourir, puis dans d'autres. Mais là, c'était pour manifester sa gloire parce que c'est un miracle. C'est vrai qu'il y a eu un objet d'apporter une bénédiction dans ce mariage. Mais au-delà de tout cela, eh bien, il n'y avait rien d'autre. Pour montrer cette gloire de Dieu manifestée dans la personne de Jésus pour authentifier que Jésus est divin. Voilà. Ça, c'est important de le souligner. Et par-delà, son amour répondant aux besoins des hommes, tel que nous l'avons vu dans ce texte. Le résultat, c'est que ses disciples crurent en lui. Je pense qu'ils avaient déjà cru en lui. À travers le témoignage de Jean-Baptiste précédemment. Voici celui, vous connaissez tous les textes qui nous rappellent, naturellement, eh bien, la présentation de Jésus par Jean-Baptiste. Mais nous pouvons dire qu'ils crurent davantage, parce qu'ils ont été fortifiés dans la connaissance et dans l'expérience, ou par la connaissance et par l'expérience. Et ça, je pense que nous touchons aussi à une réalité de la prédication de l'Évangile, pour tout homme, ou la lecture de la Bible, si nous y faisons foi, c'est que nous passons de la connaissance à l'expérience. Parce que s'il n'y avait que la connaissance pour les croyants, ben il manquerait une dimension. C'est ce qui fait que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Non pas parce que je crois qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il a fait ceci, qu'il a existé, etc., etc. Ça ne serait qu'une valeur historique, peut-être, ou une connaissance humaine. Même une connaissance spirituelle, allez, on peut le dire. Mais de savoir que cette connaissance va se matérialiser, elle va se concrétiser par une expérience. Et ça, ça augure tout ce qui va se passer après dans le ministère de Jésus. C'est que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va enseigner, les rencontres qu'il va avoir, c'est pour amener les gens à dire, eh bien voilà, nous savons en qui nous avons cru, parce que nous savons que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et nous en avons fait l'expérience. Nous l'avons dit récemment, les miracles ne sont pas suffisants pour créer la foi, mais le miracle néanmoins, c'est pourquoi Jésus l'a fait dans cette situation, dans cette circonstance, le miracle va élever, il va éveiller, il va affermir, il va attirer l'attention des cœurs sincères et vrais. Il y a là quelque chose de particulier, de divin, de céleste. C'est bien ce qui a attiré Nicodème à venir de nuit, pas très courageux, mais il est venu quand même, auprès de Jésus, et il dira, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le miracle est quelque chose d'important dans l'Église d'aujourd'hui. Le miracle est quelque chose dont nous avons besoin, parce que c'est pas quelque chose de révolu, ce n'est pas quelque chose de passé, ce n'est pas une histoire ancienne, parce que c'est, nous pourrions dire, la pierre de l'angle de notre foi. Parce que nous pouvons dire, et nous pourrons confesser, et nous pouvons dire à tous ceux qui sont encore peut-être dans l'infortune ou dans la maladie, voilà ce que Dieu est, voilà ce que je sais, et voilà ce que Dieu est capable de faire, pour moi, mais pour vous. Et une dernière remarque. Je vais faire une citation. Jésus homme, Jésus Dieu, Jésus souverain créateur, et l'histoire de l'eau changée en vin, c'est un mystère que nous pouvons vérifier dans la nature. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Jésus a dit « Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le tout possible vient du ciel. » Il y a cette écriture d'Augustin, que l'on appelle dans l'Église Saint-Augustin, premier chrétien dans les premiers temps. Il a écrit ceci pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé à Cana. Je vais faire la citation. « Celui qui à Cana créa le vin dans les vases est le même qui, chaque année, le crée dans les ceps de la vigne. Comme alors l'eau puisée par les serviteurs fut changée en vin par la puissance divine, de même sa puissance change en vin chaque année dans les ceps l'eau qui tombe du ciel. Étonnant. Étonnant. Eh bien, ce n'est pas étonnant du tout, parce que la réponse, nous l'avons. Non, le miracle se produit chaque année. Alors, la fréquence du fait nous ôte l'admiration. C'est ça, justement. L'eau changée en vin. Ce que le Seigneur a fait en un instant, en une minute, c'est ce qui se fait au cours d'une année, dans la saison, parce que Dieu est le maître de la terre. Il est le maître de l'eau qui tombe sur la terre. Il est le maître du cep de vigne et de toute sa croissance. Et ce qui se fait en l'espace des mois et des mois, à la faveur de l'humidité, à la faveur du soleil, à la faveur de la chaleur, à la faveur de tout, eh bien, ça s'est fait en un instant. C'est ce que saint Augustin disait, et je crois qu'il avait raison. Maintenant, ce miracle qui se fait sur une année, on ne va pas dire que c'est un miracle. À moins que vous buviez le meilleur des vins et que vous dites « Ah, c'est un miracle !» Mais ça n'aura pas le même sens. Hein? Ça n'aura pas le même sens. Parce que Dieu nous parle du miracle, et le miracle était tout autour de nous, à chaque instant, à chaque heure, chaque jour, dans tous les temps, dans toutes les saisons, et à travers, finalement, la vie des hommes. Mais là, il y a eu un accéléré, en une minute. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, parce que Jésus est Dieu. Je ne voudrais pas vous engager à prendre une bouteille et remplir de l'eau, et puis... Non. Mais notre foi n'a pas de limite. Notre foi n'a pas de limite. Et ça nous ouvre sur des horizons extraordinaires pour nous montrer, mais tout est miracle dans notre monde. Comment? Oui, tout est miracle. Comment vous expliquez que notre petite planète la flotte dans cet univers et on se dit puis toute la création. Alors c'est vrai que c'est un défi lancé à la théorie de l'évolution. Hein? Ah oui, nous croyons qu'il y a un Dieu créateur, un être qui est esprit, un être de vérité, un être rempli d'amour. Et vous savez, si Dieu a donné le vin, c'est aussi par amour pour les hommes. Hein? Et toutes les bonnes choses qu'il nous a données, alors naturellement, je devrais dire à consommer avec modération. Mais une chose qui est certaine, c'est que, mais tout, l'équilibre de notre vie, la composition de notre corps, le fonctionnement de notre corps, mis à part lorsque nous sommes malades, mais tout est merveille. Et là, nous l'avons dans cette démonstration. Et Augustin, là, cet homme, ce chrétien des premiers âges, premier temps de l'ère évangélique, de l'ère chrétienne, avait bien remarqué qu'il y avait quelque chose dans ce sens. Alors devons-nous être si étonnés, et voire même quelquefois incrédules du miracle de Cana, puisque ça se fait? Dieu est tout-puissant, il est souverain, il est créateur. Et en raison d'une chose, c'est qu'il est capable de changer le mal en bien. Il est capable d'amener le malade à devenir un bien portant. Il change l'infirme en valide. Il est capable de faire de l'aveugle un voyant, au bon sens du terme. Il est capable de changer la haine en amour, ça faut le faire, hein. Il est capable de changer l'athée en croyant. Et tout ça s'appelle miracle. Et ce soir, ce qui nous réunit, c'est une exhortation à croire au miracle de Dieu. Oui. De ne pas douter, mais de croire au miracle de Dieu. Et si nous remplissions nos vases, vous savez, notre cœur, si nous y mettions de l'amour, si nous y mettions de la bonté, si nous y mettions de l'espérance, si nous y mettions de la foi, et puis tout ce qu'il peut y avoir pour recevoir finalement ce qui est humain pour que Dieu le transcende et fasse finalement de cet amphore qu'est notre cœur, de ce qu'il peut y avoir d'insipide, de ce qu'il peut y avoir même de mauvais, qui n'a ni odeur ni goût, et bien d'en faire véritablement un art. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quelque chose qui soit véritablement la gloire de Dieu, parce que Dieu est capable de tout changer. Il a le pouvoir de tout changer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce soir, parce que je crois que si nous le laissons faire dans notre vie, si nous voulons l'accueillir dans notre vie, eh bien, Il est capable de changer les choses ordinaires en choses extraordinaires. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que tu es bon, tu es fidèle. Et nous croyons que tu nous as dit la vérité. Merci, Seigneur, pour cette rencontre que nous pouvons avoir autour de ta parole. Et ce que tu as voulu nous dire, est-ce que tu as voulu, Seigneur, nous amener, Seigneur, ce soir à prendre en considération, c'est que Dieu est le Dieu du miracle. Et pourquoi as-tu fait ce miracle? En effet, dans un tel contexte de noces, à travers, Seigneur, l'embarras de cette famille où il y a eu un manque, Seigneur, qui certainement posait des problèmes, parce que, Seigneur, dans une noce, il y a tout à profusion, à discrétion, Seigneur, mais tu as permis toutes ces choses pour nous montrer encore une fois de plus, eh bien, que tu es celui qui prend part, c'est vrai, aux accidents ou aux incidents de la vie, et tu es celui, Seigneur, qui a la seule réponse, et les réponses que tu donnes revêtent toujours le caractère miraculeux, et nous t'en bénissons. Ça devient miraculeux pour celui qui croit. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous bénis maintenant, et nous voulons vraiment voir ta main agir. Nous voulons voir, en effet, Père éternel, les choses se faire, Seigneur, dans toutes les circonstances de notre vie, et tu as bien voulu faire la démonstration ce soir, qu'en effet, le miracle, eh bien, il n'est pas seulement, Seigneur, dans l'eau changée en vin, mais il est dans toutes les grandes et les petites choses de cette vie. Et tout cela, Seigneur, depuis que le monde est monde, depuis que les hommes, Seigneur, sont sur cette terre, eh bien, à chaque instant, chaque minute, chaque jour, est un miracle de Dieu. Oui, Seigneur, et nous pouvons dire, comme nous le chantons souvent, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, eh bien, combien le nombre en est grand. Seigneur, tu es le Dieu du miracle, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.